La nuit des idées sur la première. La première, 20h, 1h, la nuit des idées. Sophie Brems.
Et le temps passe décidément très vite. Ici à l'Eden à Charleroi, on avait à peine le temps de souffler les infos qu'on va commencer à faire la conclusion. Mais on va peut-être, je vous l'avais promis, monsieur, terminer avec votre intervention. Donc je ne sais pas si Olivier peut passer encore le micro à monsieur qui faisait part de sa réflexion. Et puis on entamera ce vaste chantier finalement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites avec Benoît de Rennes, et puis ensemble finalement on est tous ici pour cette nuit des idées. Donc monsieur, voilà, je ne sais pas si vous pouvez résumer encore vos propos.
Mais c'est-à-dire que je voulais poser la question suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que dans les institutions financières qui sont tenues finalement en première ligne par des administratifs, que ce soit les sociétés d'investissement ou que ce soit les banques, comment voulez-vous que ces gens puissent juger d'une innovation, d'un créateur, de la capacité d'un entreprenant? Ces gens-là ne sont pas capables de saisir ça. Et la question est la suivante. Est-ce qu'au sommet des sociétés d'investissement, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des gens qui ont de la bouteille, qu'on a de l'expérience, qu'on crée des entreprises, que pour pouvoir décider si un projet vaut la peine ou si quelqu'un vaut la peine de diriger ce type de projet,
alors, y a quelqu'un,
une innovation.
Voilà.
Parce que là, on est véritablement face à un problème. Je vais prendre un simple exemple pour me faire comprendre. Vous arrivez avec une plaque de plâtre entourée de deux feuilles de papier. Vous allez le présenter à l'analyste financier qui vous reçoit dans un premier temps, aussi compétent soit-il. Il ne voit jamais qu'une plaque de plâtre entourée de deux feuilles de papier. Il va se dire, est-ce que je vais présenter ce type de projet? Même si le gars lui dit, je vais faire des cloisons avec ça, ça va marcher du tonnerre, il va faire un très beau projet, un très beau prévisionnel. Le gars, il ne voit jamais qu'une plaque de plâtre et deux feuilles de papier. Aujourd'hui,
alors,
c'est JPROC, c'est 300 emplois, ça a été vendu 50 millions à Saint-Gobain en France. Bon.
On a bien compris, je pense, votre propos.
Alors, je pense que, je ne sais pas si c'est de l'administratif, peut-être le terme n'est pas exact, mais c'est vrai que la standardisation de la finance est un réel problème, parce que, d'abord, les prêteurs ne connaissent plus bien les emprunteurs et donc ne savent pas évaluer la qualité ou pas des projets qui leur sont présentés. Mais c'est bien plus que ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des ordres financiers qui sont passés en bourse sont passés par des ordinateurs. Donc on crée des algorithmes sur base d'une série d'informations que ces ordinateurs doivent vérifier, notamment les informations grand public sur les chaînes de télévision et de radio, et en fonction de ça, prennent des positions, et des positions qui sont extrêmement courtes. Ça se passe à la nanoseconde, parce que parfois, ils jouent sur une baisse ou sur une hausse pendant quelques secondes, pour juste avoir le petit différentiel qui va faire qu'ils vont gagner de l'argent. Un exemple très concret, et je m'arrêterai là, le compte Twitter du président Obama a été, il y a un an environ, piraté. On a laissé entendre qu'il était admis à l'hôpital. Directement, le dollar a fait une brusque chute, parce que tout simplement, tous ces algorithmes ont réagi, président des États-Unis à l'hôpital, etc. Et donc, le cours du dollar a baissé très sérieusement, jusqu'au moment où, bien sûr, on a dit que c'était pas exact. Mais en attendant, tout ça a fonctionné de manière automatique. Donc oui, la finance se déshumanise au sens littéral du terme.
Voilà, ben écoutez, avant de poursuivre, peut-être on va passer à la conclusion et puis aussi à notre conclusion, mais peut-être avec vous, Benoît de Rennes, donc directeur de la Fondation pour les générations futures. Alors, quelle nuit, on pourrait dire, hein, quand même, ici déjà. D'ailleurs, auditeurs, si vous nous écoutez, je sais qu'il y en a dans la salle qui nous entendaient à la radio ce soir et qui sont venus nous rejoindre ici à l'Eden de Charleroi. Ben, vous pouvez encore le faire. La porte est encore ouverte. Alors, une petite conclusion. Allez, on va pas dire petite quand même. Mais je veux dire, par rapport à tout ce qu'on a entendu, est-ce que il y a des initiatives ou des idées? C'est ça qu'on voulait avoir aussi ce soir. Des idées qui peuvent justement émerger de toutes ces discussions ?
Alors, d'abord, effectivement, quelle nuit, mais certainement pas une conclusion, surtout une post-faste qui ouvre vers demain. Ça, c'est sûr. Et en fait, le fil d'aujourd'hui, c'était demain. Donc, ce sera demain, éternellement. Quelques éléments, je le disais tout à l'heure en entrée, nuit des idées et nuit des questions, ça n'a que traversé toute la soirée. Énormément de questions qui nous sont posées. Ça veut dire aussi que l'avenir est ouvert, il est encore à construire. Ça, c'est fondamental. Et donc, la créativité de nos jeunes, de nous-mêmes déjà, et puis de nos jeunes, sera fondamentale. Alors, des idées de cette soirée qui questionnent la tradition et le cadre établi, c'est en tout cas le sentiment que j'ai eu à travers ça, hein. Être propriétaire, est-ce que c'est vraiment nécessaire, tirer au sort des citoyens pour se réapproprier le politique ou la politique et pas nécessairement de manière oppositionnelle, avoir des valeurs en entreprise, d'économie sociale ou d'entreprise classique, avoir des valeurs dans l'école ou l'enseignement, dans l'alimentation avec des pistes très diverses. On l'a entendu, qui dans certains cas peuvent paraître comme opposés, mais qui peut-être ne le sont pas autant qu'on ne le pense, dans l'énergie, la mobilité des acteurs qui présentent un avenir qui ne converge pas nécessairement. Effectivement, cet avenir est à construire, et comme il est encore à construire, on ne pourra pas vraiment, et personne ici n'a la vérité de ce que sera demain. En fait, on le construira chacun à sa mesure. Et ce qui m'a traversé également dans toute cette soirée, c'est plus le « et » que le « ou ». Je pense que c'est les citoyens et le politique, c'est les entreprises coopératives ou sociales et les entreprises classiques qui feront le changement. Et donc, également, toutes des idées qui questionnent le temps du changement, qui est un temps extrêmement différent selon les acteurs, selon les gens. Le comportement des gens change très lentement, contrairement à ce qu'on peut croire, et donc il faut en tenir compte aussi quand on est hyperactif et hyper engagé, c'est que les gens ne changent que lentement.
Il faut être patient. Donc,
il faut avoir une certaine patience, malgré certaines formes d'urgence. Et enfin, le temps de l'engagement, qui est quelque chose de très différent, nous l'avons vécu à la Fondation pour les générations futures quand on a lancé les initiatives avec les citoyens, c'est que les citoyens aujourd'hui s'engagent dans des démarches peut-être plus courtes, plus brèves, très intenses, et ils le font très volontiers. Et donc ça, on a pu le voir dans la logique du tirage au sort. Par contre, l'engagement militant de très longue durée, ça, c'est peut-être un peu le passé, en tout cas pour un certain nombre d'entre nous, et certainement pour les générations qui viennent. Et donc, il faut en tenir compte aussi dans la manière dont on engage les changements avec les plus jeunes. Donc, les formes d'action possibles sont très différentes, et elles concernent aussi bien tout un chacun à travers ses formes de consommation, on l'a dit, de financement, d'énergie, mais effectivement aussi dans les besoins que nous avons d'avoir une vision à 360 degrés. Et donc je voulais peut-être conclure avec le fait qu'en tant que Fondation pour les générations futures, on a depuis plus d'une dizaine d'années maintenant lancé ce qu'on a appelé le Grand Prix des générations futures, qui d'ailleurs aura lieu au niveau national le 16 novembre prochain. C'est un Grand Prix qui reconnaît le travail d'un monde durable au quotidien. Et on a ici...
Et il y en a qui ont été lauréats.
Certains lauréats, dont Thierry Nouzen et Belvas, qui vous a distribué du chocolat, en 2013. Pour nous, c'était une manière de dire qu'effectivement, il existe au quotidien des gens qui déjà agissent, on l'a entendu aujourd'hui, et qui par ailleurs sont reconnus à travers un processus. Il suffit d'aller sur le site de la Fondation, voter pour celui que vous voulez, puisqu'il y en a 12 chaque année qui sont sélectionnés, et c'est un petit peu le film demain en Belgique, parce que effectivement dans le film demain il y avait des experts belges, mais il n'y avait pas de projet belge. Il en existe plein tout autour de nous, tout près de chez nous. Donc,
et c'est ça qu'avec l'opération demain et après de la RTBF, on voulait évidemment montrer. Et je crois qu'on en a eu un bel exemple aussi ce soir. Alors je ne sais pas s'il y a déjà des personnes qui veulent réagir. Je sais que monsieur, vous pouvez. Je vais vous passer mon micro. Vous en trouvez un sur la table et vous présentez peut-être. Et aussi votre idée que les gens doivent aussi connaître, mais que vous vouliez aussi mettre en avant ce soir.
Oui, donc moi je m'appelle Roland Daupe, je représente ici les Ripper Café, et une des choses qui m'a frappé et que je voulais exprimer ici, c'est deux mots en fait, c'est le mot résister et le mot ensemble. On peut résister contre l'agro-industrie en mangeant différemment, en mangeant de manière durable. On peut résister également à une société de consommation qui nous pousse à acheter, acheter, et puis à jeter de plus en plus. Et donc, le Ripper Café, c'est un lieu où, au contraire de ce système-là, on veut donner une seconde vie à des objets qui seraient normalement destinés à la poubelle. Et en fait, grâce au savoir des citoyens,
hein,
voilà, ici c'est un bel exemple, mais quelque part, c'est grâce au savoir-faire des citoyens, en se mettant ensemble, en partageant nos savoirs, qu'on peut vraiment lutter contre cet énorme gaspillage, un gaspillage énorme de ressources naturelles, un gaspillage énorme aussi quand on voit que ces déchets finissent bien souvent dans des pays du Sud et dans des conditions vraiment désastreuses, que c'est finalement ces pays-là qui nous servent de poubelles. Et donc vraiment, les Ripper Cafés, c'est aussi une initiative qui vient des citoyens pour lutter contre ça et pour changer les mentalités.
Et il y en a de plus en plus qui sont...
Il y en a 90 du côté de la Belgique francophone. Et c'est vraiment une manière aussi de créer des liens sociaux entre les gens.
Parce
que finalement,
il y a
toutes les
c'était...
générations qui se croisent là. Il y a des dames ou des messieurs plus âgés qui font de la couture, aussi bien que des jeunes geeks qui vont
réparer l'ordinateur.
Voilà. Et donc voilà, c'est un des exemples que je voulais citer.
Voilà, pour votre idée. Alors, s'il y a d'autres personnes qui veulent peut-être réagir, à mon avis, vous allez parler du talent, vous, non? Prenez un micro.
Oui, dans le même ordre d'idée que le monsieur du Ripper Café, je pense aussi aux ressourceries.
Où est-ce qu'il est, monsieur? Ah, voilà.
Aux ressourceries, et ça existe de plus en plus en Wallonie, notamment à Charleroi, il y en a une. Et malheureusement, je vois encore souvent les trottoirs décorés de morceaux de meubles, etc., qui sont d'abord pas agréables à voir et qui, de plus, se détruisent encore plus avec les incidents météorologiques. Et donc, je trouve que ces ressourceries aussi ont beaucoup d'avenir pour l'ensemble de la population. Ça permet d'aider des populations plus défavorisées à retrouver du mobilier ou d'autres objets qui vont pouvoir... et aussi au réemploi dans le sens général du terme.
Voilà, cette semaine, j'ai eu la chance de présenter mon projet à une classe de réto. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui m'a dit « Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous nous demandez de sortir de notre zone de confort ?» Et ça m'a vraiment interpellé, parce qu'en fait, finalement... réduire ses déplacements en voiture, acheter du commerce équitable, prendre de la monnaie locale, réfléchir à son énergie, réfléchir à son logement, c'est toujours quelque part prendre du temps et sortir de sa zone de confort. Mais ça, c'est le défi de demain, effectivement. Sortir de sa zone de confort, c'est laisser de la place à ceux qui n'ont aucun confort. Et donc, moi, ce que j'encourage vraiment tout un chacun, c'est qu'on ne peut pas être citoyen de tout. On ne peut pas être citoyen de son argent, citoyen de son école, citoyen de son logement, citoyen de toutes choses. Mais si chacun faisait un tout petit peu de citoyenneté, cela permettrait de donner un peu de confort à d'autres qu'à soi-même.
Et après avoir entendu tout ce qui a été dit tout au long de ces soirées, vous estimez, vous aussi, que finalement, si on en suit l'une l'autre, est-ce qu'on sort de notre zone de confort? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir été ici faire un retour en arrière avec toutes les idées qu'on a émises? Est-ce qu'on sort, selon vous, est-ce qu'on fait vraiment, on sort de notre zone de confort avec tout ce qu'on a émis comme idée?
De toute la
je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent réagir.
De toute la soirée, je n'ai entendu qu'un seul retour en arrière. C'est quand j'ai entendu quelqu'un parler de la voiture autonome qui était l'avenir de tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est la voiture partagée ou la non-voiture qui est l'avenir de tout le monde.
Non, non.
Oh, voilà.
Je vais quand même répondre sur...
Mais elle sera peut-être partagée, cette voiture.
Ouais, la voiture autonome, je ne pense plus que dans un monde... On en rediscutera dans 5 ans et j'aurai raison. Mais la voiture autonome... Non, c'est vrai, j'aurais raison, je suis sûr à 100% de ce truc-là. La voiture autonome n'est pas une voiture particulière. Le modèle de base, c'est vraiment qu'il y a une flotte de voitures autonomes qui roule et qui sert au mieux les besoins en mobilité des gens. Et c'est justement ça qui va rendre la voiture encore plus accessible. Au lieu d'avoir un capital, d'investir dans un capital à une voiture qui ne roule peut-être qu'en moyenne 2 à 3 heures par jour pour vous, vous pourrez avoir des voitures comme ça qui aura un taux d'utilisation peut-être de 80% ou 90% du temps. Et on pourrait même imaginer que la nuit, quand les gens ne veulent pas les utiliser, que ces voitures aient se recharger dans certains points spécifiques du réseau, elles seront électriques, se déchargent à d'autres points et se substituent au réseau électrique. D'une certaine manière. Mais ça. Mais, enfin, quelle électricité, quelle énergie? L'avantage, c'est qu'elles seront électriques, ces voitures-là. Et l'avantage d'un moteur électrique, c'est que c'est 2,5 à 3 fois plus efficace qu'un moteur thermique classique. Donc, déjà, en refaisant passer toute la flotte de notre voiture, toute notre flotte voiture en voiture électrique, vous gagnez en énergie quasi un facteur 3. Maintenant, vous avez raison de dire avec quelle énergie, parce que je pense que l'apparition de la voiture autonome, qui est, à mon avis, instoppable maintenant, va faire en sorte que le produit mobilité particulière en voiture va devenir encore plus attractif aux yeux des gens et qui parcourront plus de kilomètres. Et on voit quand même qu'on est alors quand même toujours dans le cadre d'une société et on va aller dans cette direction-là qui aura d'énormes besoins en énergie et on construira d'énormes infrastructures pour produire cette énergie. Mais construire d'énormes infrastructures ne veut pas dire polluer ou ne pas être vert.
Une autre réaction ?
Oui, je voulais revenir sur cette jeune étudiante qui parlait de sortir de sa zone de confort. Donc nous, on s'intéresse au processus de changement depuis très longtemps. Je pense que tant qu'on a l'impression qu'on va sortir de sa zone de confort,